Merci d'écouter RFI, il est 21h à Paris, 23h à Erbil.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Clémentine, bonsoir à toutes et à tous.
Dans l'actualité, ce premier vol de rapatriement vers le Kurdistan irakien et l'Irak, plus de 400 personnes ont quitté la Biélorussie. Elles étaient prises au piège à la frontière avec la Pologne depuis 2 semaines.
Et puis le Venezuela organise une double élection dimanche, des régionales et des municipales. Mais au sein de la population, ce scrutin suscite peu d'engouement. Les Vénézuéliens sont rattrapés par les problèmes du quotidien, comme le manque de carburant.
Dans ce journal également, ce chiffre inquiétant, plus de 100 000 personnes sont mortes d'une overdose pendant la pandémie de Covid-19 aux États-Unis. Les autorités américaines lancent l'alerte sur l'utilisation d'opiacés. On vous explique tout dans un instant.
Et puis cette affaire qui finit plutôt bien hein, en Turquie, Clémentine. Un couple de touristes israéliens a été libéré après une semaine de détention. Ils avaient été arrêtés pour avoir photographié une résidence présidentielle.
Le journal en français facile.
Un avion parti de Biélorussie a atterri aujourd'hui à Erbil, au Kurdistan irakien. Il doit redécoller pour Bagdad, la capitale irakienne, dans la soirée.
Oui, un avion avec à son bord 431 personnes. Il s'agit d'Irakiens volontaires. Ils étaient bloqués à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Plusieurs milliers d'autres migrants sont toujours sur place. Leur calvaire dure depuis 2 semaines, dans le froid, avec juste assez d'eau et de nourriture pour survivre. Lorsque la Biélorussie a facilité l'entrée de ces migrants sur son territoire, ces familles ont pensé qu'elles pourraient offrir un avenir meilleur à leurs enfants. C'est ce que nous explique Mera Jasm Baker, chercheur à la fondation Konrad Adenauer.
Pour les familles, prendre la décision d'émigrer a soudain été plus facile. Vous prenez simplement un avion pour Damas, Beyrouth ou Dubaï, puis vous arrivez à Minsk. Vous êtes très près de l'Allemagne, par exemple, plus besoin de prendre la mer, vous n'avez plus peur de vous noyer. Donc les gens ont vu la route par la Biélorussie comme une route plus facile pour aller jusqu'en Europe. Mais les gens avaient déjà la détermination et les raisons de partir. Chaque année, 10 000 étudiants finissent l'université, ils ne trouvent pas de travail et ils finissent par travailler dans un café. Ils ne voient pas de futur économique dans cette région. Une autre raison, c'est que les gens ont le sentiment de vivre sans dignité. Il n'y a pas de liberté d'expression. Vous pouvez finir en prison sans raison. De manière générale, les gens sont désespérés, les jeunes comme les plus âgés.
Des propos recueillis par Oriane Verdier.
Le Venezuela se prépare à ses élections régionales et municipales.
Le vote aura lieu dimanche et cette fois l'opposition est de retour. Elle avait boycotté tous les scrutins organisés depuis 2018. L'opposition a donc présenté plusieurs candidats face au régime socialiste du président Nicolas Maduro. Mais beaucoup de Vénézuéliens affirment qu'ils ne s'intéressent pas à ce scrutin. Les problèmes du quotidien occupent leurs esprits, comme par exemple l'accès au carburant. Reportage de nos envoyés spéciaux à Caracas, Stéphanie Schuller et Bertrand Eckler.
La file d'attente de voitures s'étend sur plusieurs kilomètres le long d'une voie rapide dans un quartier populaire de Caracas.
Si vous arrivez à 9h du matin, vous serez servi le lendemain, vers midi. Si je veux faire le plein, ça me prend une journée entière et je dois rester toute la nuit sur place. Le lendemain, je ne peux pas travailler parce que je suis trop fatigué. Et il arrive que quand c'est mon tour, ils annoncent qu'il n'y a plus d'essence.
Libardo Copio est chauffeur de taxi. Ses faibles revenus l'obligent de faire le plein dans les stations-service subventionné par l'État, où le carburant se paye en bolivar, la monnaie vénézuélienne. Dans ces stations, les automobilistes n'ont le droit qu'à 120 litres par mois. Si ce quota est atteint, ils doivent se tourner vers le deuxième type de station-service à Caracas. Ici, pas de file d'attente, l'essence se vend en dollars américains.
Pour faire le plein, vous devez avoir 20 à 35 dollars.
Une somme hors de portée pour la majeure partie des familles vénézuéliennes qui ne gagnent pas plus que 10 dollars par mois.
Toutes les stations-service sont contrôlées par l'armée, mais la présence des militaires est bien plus importante dans les stations subventionnées. Là-bas, ce sont les soldats qui décident qui va être servi et avec combien de litres vous allez repartir.
Stéphanie Schuller et Bertrand Hitler, Caracas, RFI.
Aux États-Unis, plus de 100 000 personnes sont mortes d'une overdose pendant la pandémie de Covid-19.
Oui, ce nombre couvre la période d'avril 2020 à avril 2021. Et les autorités lancent l'alerte, les opiacés, comme le fentanyl, tue de plus en plus d'Américains. Bonsoir Arim Lipold.
Bonsoir Clémentine.
Vous êtes journaliste au service international de RFI. Alors ces médicaments, Arim, ils ont d'abord été prescrits comme des antidouleurs par des médecins. Ils sont ensuite devenus une addiction.
Oui, exactement. Et en seulement un an, effectivement, les opiacés, qui sont, vous savez, des dérivés d'opium, ont tué une personne toutes les 5 minutes aux États-Unis. C'est du jamais vu. Certes, la pandémie du Covid y est pour quelque chose. Beaucoup d'Américains, ont une difficulté financière ou par manque d'accès aux soins, se sont tournés vers des produits de synthèse, donc chimiques. Ils sont moins chers, mais plus dangereux, selon les autorités. Les overdoses sont surtout liées à l'utilisation d'opiacés qui contiennent du fentanyl. C'est un opioïde comme la morphine. Il est produit souvent illégalement en Chine et acheminé aux États-Unis par des cartels mexicains. Ces derniers font croire aux consommateurs qu'ils achètent des produits homologués, donc légaux, mais ce sont en fait des pilules contrefaites. Beaucoup de jeunes Américains les achètent d'ailleurs sur les sites comme Snapchat ou TikTok. Et pour lutter contre ce fléau, le gouvernement américain mise sur la prévention et veut faciliter l'accès à la naloxone. C'est un antidote qui empêche de faire une overdose, mais il n'est pas sûr que cela suffise à freiner la consommation de ce que le journal le New York Times appelle déjà l'opium du peuple.
Merci beaucoup, Arim Lipold.
Les États-Unis où la justice s'apprête à innocenter 2 hommes.
Mohamed Aziz et Khalil Islam avaient été condamnés pour l'assassinat en 1965 de Malcolm X, icône de la cause des personnes noires. À eux deux, ils ont passé 42 ans derrière les barreaux. Ils ont toujours clamé leur innocence. Cette affaire reste une plaie ouverte dans l'histoire des Afro-Américains dans le pays.
Et sur le terrain de la lutte contre le Covid-19, l'Allemagne va imposer des restrictions aux personnes non vaccinées. Elles devront notamment, Clémentine, limiter leur vie sociale.
Oui, une réunion de crise s'est tenue aujourd'hui en présence de la chancelière sortante Angela Merkel et des chefs de gouvernement régionaux. Cette rencontre s'est tenue alors que le nombre de nouvelles infections augmente fortement. Plus de 65 000 nouveaux malades du Covid-19 ont été recensés en 24 heures. C'est du jamais vu dans le pays depuis le début de la pandémie.
Et puis en France, l'Assemblée nationale donne son feu vert au projet de loi réparation envers les harkis.
Les harkis, ce sont ces Algériens qui ont combattu pour l'armée française au moment de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Ils ont ensuite été abandonnés à leur sort. L'objectif de ce projet de loi est donc de réparer les préjudices subis.
La justice turque vient de libérer un couple d'Israéliens.
Oui, tout est bien qui finit bien pour Mordi et Nathalie Oknin. Ces deux Israéliens étaient détenus en Turquie depuis une semaine. Le couple, en vacances dans le pays, avait pris des photos d'une résidence présidentielle à Istanbul. Sami Bourlifa.
Une semaine d'enquête côté turc, une semaine d'intenses efforts diplomatiques côté israélien. Finalement, le couple est libéré ce jeudi matin. Aussitôt relâché, aussitôt rapatrié en Israël via un vol spécial. La semaine dernière, les vacances de ces deux Israéliens tournent au cauchemar. À Istanbul, ils prennent en photo une résidence du président Recep Tayyip Erdogan et l'envoient à leur famille. Le cliché est pris depuis un restaurant qui surplombe la maison présidentielle. Et c'est justement un des employés de ce restaurant qui donne l'alerte. Le couple est contrôlé, arrêté. Les événements s'enchaînent, sa garde à vue provisoire est finalement prolongée pour une durée de 20 jours. Les autorités israéliennes prennent alors les choses en main. Afin d'éviter d'exacerber les tensions, le gouvernement demande à la famille du couple et à la classe politique israélienne de faire profil bas. Après une semaine d'intenses tractations, le ministère des Affaires étrangères israélien et le bureau du Premier ministre Naftali Bennett annoncent conjointement ce jeudi matin dans un bref communiqué la libération du couple. Le ton est neutre, diplomatique, l'État est remercie le président turc et son gouvernement pour leur coopération. Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI.
RFI, il est 22h10 à Paris.
Une semaine d'actualité.